Mais on n'a pas toutes les réponses.
Plein de questions, on n'a pas toutes les réponses.
Mes collègues de reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses.
C'est ça le titre de notre podcast.
Si, moi, c'est ça que j'ai pensé, on n'a pas toutes les réponses. Écoutez-vous.
Bonjour à tous, on est le samedi 29 février 2020. L'épisode qu'on va vous faire aujourd'hui, en fait, je suis toute seule en studio, Pauline, avec une bonne amie puis une super artiste avec qui j'avais vraiment hâte de discuter dans le podcast, c'est Joanie Thomas. Bonjour Joanie.
Salut.
Joanie, je vais te laisser peut-être te présenter parce que je sais qu'on a, avec Philippe, Nelly et Geneviève, on avait préparé plein de questions pour toi, mais le mieux, je pense que c'est toi qui choisis comment tu veux te présenter, puis après, on va attaquer quelques sujets qui t'intéressent. Donc, alors, qui es-tu, Joanie?
Qui suis-je? Je suis née à Chupagan. J'ai fait mes études en art dramatique à l'Université de Moncton. Donc, j'ai baigné un petit peu dans l'univers du théâtre. C'est ça que je fais. Puis, j'ai découvert la poésie à travers mes études à l'université. Donc, j'ai publié mon premier recueil de poésie en 2016, Cap'n de Catherine. Mais je suis vraiment quelqu'un qui est vraiment dans l'expression. Fait tout ce que je peux faire qui me permet de m'exprimer. Fait que ça soit le cirque. Je fais des échasses aussi depuis quelques années. Je vais chanter puis danser pour moi-même. Je fais beaucoup de dessins, de la peinture. Donc, je suis vraiment dans la création, tout ce que je peux faire pour créer, en fait, c'est ce qui m'anime. Voilà, c'est ça.
Très bien. Puis, je sais que moi, je te suis sur les réseaux sociaux aussi, qu'on est amis. Puis c'est vrai que tu publies pas mal de choses, de textes ou de réflexions. Enfin, oui, je te vois créer, en tout cas, même de loin.
Oui.
Intéressant. Si on va un peu plus loin, je sais qu'on s'est rencontrés dans le cadre professionnel aussi, mais on s'est vus à d'autres occasions pour des événements féministes, en fait, avec le regroupement. Puis je me demande, on se demandait en tout cas avec les autres, comment, c'est quoi ton cheminement ou ta découverte de la lutte pour l'égalité, peut-être, si on peut dire ça comme ça, ou comment toi tu te vois dans le féministe. Comment tu te l'appropries aujourd'hui?
Ben, c'est un parcours particulier parce que je comprenais pas nécessairement le mot ou l'intention de comme la lutte des femmes. Puis j'ai juste compris un peu plus tard que le mal-être que je ressentais par rapport à comme c'est OK, je vais être très concrète. Tu sais, on vit dans cette espèce de bulle-là où moi, j'ai vécu dans cette bulle-là où ce que c'était d'être la belle femme. Tu sais, d'être la plus belle femme, d'être la plus désirable, d'être... Puis cette impression-là que quand on n'est pas cette femme-là qui est choisie, que notre identité ou notre présence est comme nulle. C'est comme si on n'a comme pas le droit d'exister. Puis
je comprends.
Ouais, puis... J'ai vraiment juste compris que c'était une condition une fois que j'étais à l'université parce que je trouve que c'est comme si je suis sortie de, tu sais, ma petite ville, je suis sortie de ce cadre-là dans lequel j'ai vécu, puis ça m'a vraiment apporté des pistes de réflexion. Tu sais, j'étais vraiment intéressée par la philosophie, vraiment intéressée par comment la société se construit, qu'est-ce qu'est le langage, comment on apprend à juste vivre ensemble, mais comme encore pousser plus loin, comme qu'est-ce qui fait que j'ai un mal-être, ben c'est comme OK, mais c'est pas seulement moi. Ça vient de... C'est plus gros que moi, en fait.
Ça, tu l'as découvert en sortant de ton cocon, on va dire, familial, quand t'es sortie de là où t'as grandi?
Oui, ben oui, ça s'est fait graduellement aussi, parce que justement, de rencontrer des gens avec un autre bagage, d'être dans une ville aussi où ce qu'on a l'impression qu'on peut être un peu plus nous-mêmes, où ce qui est comme une liberté de choisir son propre clan ou de choisir sa propre façon d'être aussi dans un environnement artistique, tu sais, on est en théâtre, on est en art dramatique, tout le monde est, on dirait, flyé, tu sais, il y a vraiment comme une ouverture, il y a vraiment une bulle qui éclate, il y avait vraiment une permission d'être qui on veut être. puis, ouais, c'est comme si qu'il y a des choses qui sont apparues.
Intéressant. Donc ça, ça sera après le secondaire?
Oui.
Ouais? Ouais.
Puis comme, je dirais comme la majorité, je veux pas tomber dans un jugement, mais dans ce que je voyais, dans ma tête, j'entendais féministe, puis j'entendais comme intense, folle. Oui, c'est ça. Extrémiste, tu sais. Il y avait cette impression-là, comme mon Dieu, il se monte en l'air pour rien, ou comme. Puis on dirait, ça c'est venu à moi tranquillement. C'est comme plus que je fouillais, ou j'avais des amis qui partageaient des articles, puis je lisais ça, puis c'était comme, ça me frappait. C'était tellement évident, mais parce que j'avais jamais eu le langage pour le développer.
Très important,
oui. Puis j'étais comme, OK, c'est ça le feeling que j'ai en dedans, que je me sens pas bien ou que je me sens objectifiée ou le male gaze comme, oh, quand j'ai entendu, ça a tellement été clair.
Explique-nous comment tu le vois, le male gaze.
Ah, ben c'est vraiment ça, c'est comment l'homme regarde la femme, mais qui regarde la femme d'une façon... sexuel tout le temps, en fait. Puis de voir comment c'est partout dans les films que j'écoutais quand j'étais jeune ou dans les téléséries, comme il y a beaucoup, c'est justement ce regard sexuel envers la femme. Fait que c'est...
Puis est-ce que toi, c'est une question, mais oui, j'ai senti ça aussi très jeune aussi. Je sais pas toi à quel âge t'as senti ça, mais je me rappelle que moi, ce regard-là des hommes sur les femmes, c'est évidemment dans les médias, dans la culture, dans les films, mais aussi dans la rue, à l'école, où je sais qu'à partir de 10-11 ans, je chantais, qu'il y a des fois, on te regardait, il y avait des prédateurs, mine de rien, tu le sais. Quoi.
Oui.
Mais, OK, oui, ben, le male gaze, ouais.
Oui, ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis, j'aimerais ça qu'on va là-dedans. OK, je vais aller super personnel. C'est drôle parce que j'avais l'impression que j'allais parler de ça.
C'est comme tu veux.
Oui, j'ai envie d'en parler. Ouais. Okay. Je pense que dans le mouvement MeToo aussi qu'on est dans, moi, j'ai été abusée sexuellement entre l'âge de 3 et 4 ans. Puis tout de suite, ça a été un indicateur de... Même quand j'essaie même pas d'être sensuelle, mon corps de femme est libre à tout le monde à prendre. Puis ça, c'est dur. Puis... Pendant longtemps, j'étais même pas capable de m'assumer dans... Parce que là, je me disais, j'étais un enfant, on était censé me protéger, puis j'étais même pas une femme. Non. Tu sais ce que je veux dire? J'avais même pas cette intention-là d'être sensuelle, puis c'est arrivé. Fait imagine quand que là, la puberté embarque, puis là, tu commences à être un objet de désir. Ça a été vraiment difficile de vivre dans ce corps-là qui... J'avais l'impression qu'il était où ce que tout le monde pouvait prendre, tu sais?
Ouais.
Puis je pense que dans la culture dans laquelle on vit, on a souvent... on est techniquement en sécurité à peu près partout où on va, mais comme tu dis, il y a quand même... On sent des choses étranges très vite. Comme, par exemple, puis tu sais, c'est fait de façon tellement banale, mais c'est tellement reçu de façon étrange. Je me rappelle d'un collègue de travail de mon père qui m'a dit, si tu me souris, je vais te donner 20$.
Oh my God.
Mais c'est tellement fait de façon naïve.
Oui.
Tu sais, puis, mais là, c'était comme, si j'ai pas envie de te sourire, comme, je vais pas le faire, mais là, c'était comme, oh oui, mais tu vas avoir 20$. Il y avait un feeling étrange de comme, à cette heure, c'était comme de la prostitution à quelque part, tu sais.
Ouais, ouais.
Mais, puis c'était juste, j'étais tellement, je me rappelle le sentiment de malaise intense.
Ouais.
Fait que c'est comme, j'ai l'impression qu'on a besoin d'en parler, même si c'est difficile, parce que justement, on doit casser ces façons de faire-là. Ça peut plus être accepté d'obliger les enfants à donner des becs à de la visite, par exemple. C'est comme, on doit apprendre à vraiment respecter les boundaries. Puis j'ai l'impression que comme femme, on est tellement dans cette culture-là de l'homme peut nous prendre comme qu'il veut, comme tu sais les petits gars qui essayent de lever la jupe ou comme tu sais
toucher les fesses
ou comme c'est un challenge, c'est drôle, ouais. Haha, oui, ouais. C'est un jeu, mais c'est pas un jeu.
Non.
On se sent vraiment victime, puis c'est il faut cette culture-là peut plus exister. Puis là c'est le
Tout
temps, c'est ça.
C'est intéressant le enfin vraiment que tu utilises le t'insistes sur le mot malaise parce que c'est ça quoi. C'est ce sentiment qui est très difficile aussi à expliquer quand on quand certaines personnes n'ont jamais vécu ça, on va dire. Et comment t'expliques ce malaise? C'est sous-entendu. Puis là, tu le fais bien, mais c'est vrai que c'est compliqué à transmettre. Puis la notion du corps aussi, comme tu dis, tu as vécu quelque chose qui est justement l'exemple parfait de la domination du corps de l'autre. Ça va être un combat de toute notre vie, toute ta vie aussi, je pense, partout. Tu sais, quand là, on a parlé d'agression sexuelle, mais ça va être après. Tu as eu des enfants, peut-être que tu as des expériences à la maternité ou quoi que ce soit aussi, ou quand tu tombes enceinte, quand tu vas chez le gynécologue, quand tu vas chez le médecin, quand tu rencontres un nouveau copain, une nouvelle copine, tu as toujours ce rapport au corps qui est remis en question. Quand on parle d'avortement, on dirait que notre corps ne nous appartient jamais finalement. Ou quand tu veux l'appartenir, on te traite d'égoïste ou on te dit que tu n'as pas le droit.
Oui.
C'est intéressant de... Ça, c'est révoltant aussi.
Ah, tout à fait, je comprends. Puis le fait de s'affirmer dans son pouvoir, moi, j'ai eu cette expérience-là avec ma deuxième grossesse où, à un moment donné, tu sais, c'est hyper contrôlé, premièrement. On surveille vraiment intensément, tu sais, toute la... Toutes les rendez-vous infinis, comme... C'est comme s'il y a comme... On peut pas respecter le fait que intuitivement, on sait si ça va bien ou si ça va pas bien. On est vraiment dans le contrôle extrême par rapport au corps de la femme, tout à fait. Puis...
T'es pas la seule. J'ai entendu plein d'amis qui m'ont dit pareil, que c'était hyper, hyper, hyper. T'as l'impression que, finalement, tu te fais plus confiance, toi, en tant que femme enceinte.
C'est, le contrôle est tellement intense, c'est comme s'ils veulent t'enlever le pouvoir. Puis une fois que t'es dans la salle d'accouchement, tu dois accoucher d'une telle manière encore. Tu sais, oui, il y a plein d'affaires qui sont évoluées. Tu sais, maintenant, on a le pot à pot. Fait que, tu sais, ils vont pas juste t'enlever le bébé, ils vont te le mettre sur toi. Tu sais, comme, OK, oui, bravo, merci. mais il y a quand même des pratiques étranges comme, tu sais, le scraping, par exemple, qui vont vraiment aller gratter pour essayer de provoquer l'accouchement. Moi, c'est... Ouais.
J'ai jamais eu d'enfant, je sais pas.
puis des fois, c'est ça, on essaie de briser, je trouve, un rythme. Comme je comprends, on veut faire ça que la vie, se passe. Puis je comprends ça. Mais je pense qu'il faut vraiment trouver la balance entre, OK, on laisse la femme dans son pouvoir, puis on la laisse intuitivement savoir quand elle va pas bien, quand elle va bien. Puis en même temps, on est là, tu sais, on est là, on soutient. Puis là, tout de suite, on n'est pas dans un système qui soutient, on est dans un système qui contrôle.
Puis donc, toi, tu l'as ressenti comme ça, c'est ça pour tes deux grossesses?
C'est ça, oui. Comme je me sentais des fois un peu envahie, ça me dérangeait un peu, tu sais, d'être dans la salle d'attente. T'es comme, tu sais, 10 femmes enceintes entassées dans une petite salle, pas super confortable. Puis on nous passe à la chaîne, là. Tu sais, c'est comme, OK, ça va bien, on te pèse. On se sent vraiment comme des cochons, tu sais, on nous pèse. Là, on dit, oh, t'as pris tant de livres, puis là, quand le bébé prend. Tu sais, c'est vraiment. Ils checkent sur des normes, il y a des listes, ils sont comme, ah, ton bébé prend pas assez de poids, là, on va le surveiller, là, on va aller regarder. C'est un stress énorme.
Puis, encore une fois, là, c'est le système dont on parle, c'est pas les gens, ils sont obligés, les personnels sont obligés de faire ça, mais c'est vraiment le système qui est construit de façon...
C'est ça, exactement, c'est le système. Parce que je sais que les gens ont un bon cœur, je sais que tout le monde qui travaille dans le système de santé veulent faire du bien, sinon, il ne serait pas là, tu sais. Puis des fois, c'est ça que je trouve. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens à même le système qui sont comme, oui, c'est plate, c'est de même, mais c'est comme ça que c'est.
Statu quo de marde.
Fait que c'est dur. Ouais. C'est dur de dire, OK, on sait que le système est désuet, comme le... Puis tu sais, on parle de système de santé, mais on peut parler du système économique, on peut parler...
Exactement.
On sent que le patriarcat, si on veut l'appeler comme ça, on sent que ça pue sa place, là. On sent que
tout est lié, de toute façon.
Tout est lié, c'est toute la même, c'est toute la même source de comment est-ce qu'on s'est organisé pour un temps, puis ça a fonctionné, ça nous a permis d'évoluer, puis tant mieux. Mais
pour
là,
certains.
Pour certains. mais là, c'est comme, OK, on n'est plus bien là-dedans. Non. Puis il y a plein de choses qui ressortent, là, tu sais, il y a plein d'hommes au pouvoir qui ont abusé de leur pouvoir, qui ont fait des choses ignobles, puis là, tout est en train de... Les masques sont en train de tomber, puis on est en... C'est très beau, en fait. C'est violent, parce que là, on voit comme... Mon Dieu, on s'est fait maltraiter. Puis c'est dur, parce que ça fait mal, tu sais. On veut tout que tout le monde soit bien, je pense, en général. Puis quand on voit comme, OK, ben tu sais, il y a une autre femme au bout du monde qui s'est fait agresser par ce producteur-là parce qu'il pouvait, puis parce qu'elle était dans un état vulnérable, elle voulait juste une job, puis il y avait comme un... C'est ça, c'est vraiment l'abus de pouvoir, c'est s'imposer, c'est le contrôle encore.
Ah, oui, puis ça, ça revient tout le temps, le pouvoir, la domination, sur la planète, sur les femmes, sur les marginalisés, etc. Ouais. Puis c'est ça, dans la vie d'une femme, en tout cas, on le voit, partout que ça soit dans ta carrière. Ben, on pourra passer au sujet de ta carrière professionnelle aussi. Mais donc là, on est comme dans ton enfance, on peut être une proie aussi, vraiment. Ensuite, il y a l'adolescence où c'est encore assez touchy. Là, on parle du système de santé quand on attend un enfant ou même avant ça. Puis après, dans ta carrière professionnelle, est-ce que toi, t'as eu, si tu veux en parler encore une fois, s'il y a des trucs que tu veux pas dire. Toi, comment tu... Est-ce que dans ta carrière professionnelle, dans tes projets, comment tu te sens en tant que femme, jeune femme artiste en Acadie? Est-ce que tu te sens bien? Peut-être qu'il n'y a rien à dire aussi. Est-ce que c'est...
Ben, j'essaie de voir où je peux commencer, en fait. Parce que une des premières choses, je pense que je vais parler du fait de devenir mère. Parce que c'est là où ce que je chantais quand je suis sortie du département, on était un petit peu... le monde des arts, c'est comme si tu le découvres une fois que t'es lancé dedans. Fait que là, c'était vraiment l'apprentissage de « OK, il faut que je construis mes propres projets. Faut aussi « OK, ben là, j'ai pas de projet qui s'en vient. Fait que là, comment je peux aller? Comment je peux survivre? Comment je peux, tu sais, trouver de l'argent en attendant? » Ou comme... Fait que j'anglais beaucoup avec souvent un emploi de jour, puis après ça, le soir, on fait les projets.
C'est précaire, ouais.
Fait que ça, c'est dur. Mais à travers ça, j'ai quand même trouvé une certaine indépendance. Mais quand j'ai voulu avoir une famille, il y a des gens qui m'ont parlé, puis ce qui est venu à mes oreilles, c'est « Ah, ben maintenant que tu vas être mère, ta carrière est finie.
Oh, mon Dieu.
Ça va arrêter. » Et puis ça m'avait vraiment rentré dedans. Et puis je m'étais dit, c'est pas... Puis ça m'avait mis une pression énorme. Parce que j'étais comme, c'est pas vrai que j'arrête. Parce que j'aime, c'est ma passion, j'aime ça, je peux pas arrêter. Puis, tu sais, tout de suite, quand j'ai accouché de ma petite, c'était comme, OK, ben je dis non à rien, là. Puis, tu sais, j'ai eu des contrats tout de suite en sortant, mais en même temps, je vois comment j'ai pas pu apprécier autant... mon nouveau rôle de mère, parce qu'il y avait vraiment ce stress-là de performance, puis ça m'a fait tomber, comme le burn-out, ça a été parce que j'essayais de jongler le fait d'être une nouvelle maman, puis en même temps de continuer à 100% avec la même énergie, la carrière que j'essayais de bâtir, ou de continuer d'être présente dans le milieu, si on veut.
Parce que si tu sentais la peur de perdre quelque chose qu'on n'allait pas t'attendre ou qu'on n'allait pas chercher.
On m'avait dit, tu sais, parce que c'est ça, on m'avait mis ça dans la tête que t'as des enfants, tu peux plus, ta carrière, tu sais, ça fonctionne pas, là.
C'est incroyable, quand même.
Puis,
t'avais pas... Puis, ces personnes-là, est-ce que c'était dans l'industrie, dans le sens où... Puis, est-ce qu'il y a eu ces réflexions de... on va t'aider ou on va trouver une solution? Oui, ça peut être, en effet, une autre logistique, mais... mais t'inquiète pas, ça va marcher, quoi. Est-ce que tu as senti quand même qu'il y avait ça, ou c'était plutôt, elle a choisi ça, ciao, quoi.
Ben, en fait, il a fallu que je construise. J'ai eu des contrats qui m'ont permis de jongler les deux.
OK.
Puis, tu sais, un des premiers contrats de théâtre que j'ai eu après Maya, ben, c'était avec... avec Christian puis André, parce qu'ils montaient le facteur, puis dans le fond, c'était comme le concept de tu vas être la blonde sur Skype, fait, tu peux jouer à partir de chez vous. Fait qu'on, c'était comme on, tu sais, jouait live à partir de chez nous. Fait que j'avais pas besoin de me déplacer pour les répétitions. Fait qu'il y avait dans ce concept-là, dans ce contexte-là, ça marchait. Puis ensuite, j'avais eu la chance d'avoir une bourse du Conseil des arts, puis encore là, c'était nous autres qui géraient notre propre temps, notre propre espace de travail. Fait que là, avec l'équipe, j'étais comme, ben moi, j'allais être ma petite, elle va être là, soit on va répéter, mais quand j'ai besoin d'allaiter, je le fais. Fait que là, encore là, c'était comme, le travail se fait pareil, c'est juste que le rythme est différent, puis la vie est là, tu sais. C'est ça, je pense, là, qu'on doit incorporer la vie.
Exactement, puis ça se fait.
Exactement.
Mais du coup, c'est la peur qui pourrait freiner plusieurs femmes aussi. Toi, tu t'es dit non, je continue, là.
Oui.
Je vais le faire. Donc,
C'est ça, mais c'est pas n'importe qui aurait pu être ouvert à avoir une autre, tu sais, une présence comme... entre guillemets, qui pourrait déranger. Ensuite de ça, il y a un autre contrat avec Emma Haché, qui est maman, elle aussi. Fait qu'elle, c'était comme, ben oui, apporte-les, ta petite. Ouais. Oui, elle comprend, tu sais, elle-même a allaité. C'était clair, là.
Ça t'a baissé la pression un peu, j'imagine, aussi, de voir que... OK, c'est bon.
Ben, il y avait quand même ce sentiment-là de déranger. Que je me sentais supportée, malgré que je me sentais respectée dans mon rôle de mère avec ma petite qui est là, puis ça, il y avait quand même ce sentiment-là de « oh, mais je suis pas productive ». Puis ça, c'est vraiment... C'est un poison. On est tellement dans cette pensée-là de production, de comment on peut être toujours le plus efficace possible, mais c'est malsain au bout.
Et là, comment tu te sens? Est-ce que tu as toujours ce sentiment-là? Parce que là, ils sont plus grands.
Ils sont plus grands, oui.
Est-ce que...
J'ai l'impression que maintenant, c'est vraiment complexe d'être une femme, puis d'être mère, et d'avoir des ambitions. Je veux dire, d'avoir des projets, tu sais, d'être motivée par... j'ai l'impression que c'est encore... que c'est encore mal vu du fait que nos enfants sont pas le focus premier. Je me sens jugée, mais je me demande si c'est pas moi-même qui me juge, tu sais. Puis c'est peut-être pas nécessairement un jugement de l'extérieur, mais tu sais, il y a ce sentiment-là, ben là, je les abandonne, ben je suis pas assez présente, je suis pas assez là. Mais pourtant, quand tu regardes, tu sais, mettons des célébrités qui ont des, tu sais, qui doivent partir en tournée sur des shows, ou qu'ils ont des nounous, ou il y a des gens qui sont là pour s'occuper de leurs kids, puis mais je sens qu'on n'a quand même pas un système de support. Puis tu sais, c'est surtout que moi, j'ai jamais eu de partenaire qui faisait de la grosse argent, fait que je pouvais pas me dire lui va tout payer la garderie, puis tu sais, j'ai toujours été comme par moi-même, dans le sens où ce que c'est moi qui construis mon propre salaire, dans le sens que je gère ma business qui est moi. Puis c'est pas évident. Puis j'ai jamais eu comme tu sais, quelqu'un qui fait comme, quand ça va pas bien, tu sais. Il a fallu que je gère mes propres affaires. C'est ça qui est difficile. Puis c'est là que tu fais comme, je vois des hommes, par exemple, dans le milieu qui sont vraiment... qui font de la grosse argent en faisant ce qu'ils aiment. Puis là, des fois, tu te dis, c'est-tu parce que je suis pas assez business, ou c'est-tu parce que c'est un homme puis moi, je suis une femme? Comme, qu'est-ce qui est la clé? Comme, des fois, c'est pas que je veux projeter comme... je veux pas me victimiser du fait que je suis une femme, c'est ça l'affaire. Non. Mais en même temps, on est quand même dans un système qui nous empêche Ben, je ne peux pas dire qu'ils nous empêchent, mais on se fait discriminer. Oui, il y a des barrières. Puis c'est tellement des fois subtil que quand tu essaies d'en parler, ils ne voient pas ça.
Non.
C'est là le plus difficile, je pense. C'est quand on essaie d'ouvrir la porte à une discussion, de dire, ben, je pense que ça, c'est sexiste et voici les raisons. Ben, déjà, le terme, ils se sentent attaqués. Ouais. Ils se sentent comme si, ben, on n'est pas toutes de même. Puis moi aussi, je garde mes enfants. Puis, tu sais, je suis. Mais c'est comme, oui, mais c'est pas toi que j'attaque. Oui. Tu sais, c'est ça qui est dur. Je pense qu'on essaie tranquillement de retrouver la vraie relation. Mm-hmm. Dans l'homme, dans la femme, ou masculin, féminin.
Et autres.
Oui, ça. Puis c'est complexe. Il y a souvent des gens qui vont me dire, oui, mais Joannie, fais tes propres projets. Oui, mais j'haïs tellement ça quand on me dit ça. Parce que comme, oui, j'aimerais ça les faire, mes propres projets. J'aimerais monter mes propres pièces. J'aimerais, tu sais, mais où est-ce que je vais chercher le financement? Qu'est-ce qui me le donne?
Ouais.
J'ai pas les outils pour ça. T'sais. Des fois, c'est comme, c'est facile de dire, bon, ben, juste vas-y.
Ouais.
Oui, mais OK.
Outils-moi. Ouais.
Puis, il y a des gens qui ont bâti des empires. Il y a des gens qui sont partis de rien, qui ont bâti des compagnies. Puis, bravo!
Mm-hmm.
Mais il y avait une équipe de support. T'sais, ils n'étaient pas tout seuls là-dedans. Mais là, de dire, moi, comme individu, faut que j'applique pour des bourses que je sais même pas que je vais avoir, ou comme c'est comment on fait là, tu sais.
Puis ceux qui réussissent, ils réussissent jamais tout seuls non plus là. Faut arrêter de ce mythe là de dire celui qui a construit tout seul, tu sais. Ça me fait penser aussi aux sorcières, là, les fameuses. Ça aussi, j'ai pas pu finir le livre tellement c'était atroce, mais une journaliste qui a repris toute l'histoire des sorcières. La chasse aux sorcières. Ça reste en nous encore, là, cette peur de d'être une femme libre, en fait. C'était ça, on l'a encore, ça se transmet de génération en génération. T'étais brûlée ou tuée, il y avait des villages entiers qui étaient... Il n'y avait plus de femmes, parce que dès que tu avais un peu d'indépendance, que tu avais des savoirs sur le niveau de la santé, d'autonomie sexuelle, financière, pas que ce soit, tu te faisais martyriser. Donc on veut pas ça, on veut pas être seul. Donc je pense que c'est une peur malheureusement un peu ancestrale, qu'on pourrait dire, qui nous a été inculquée. Donc
tout à
fait. C'est dur, mais faut j'espère que en tout cas tu vas pouvoir, tu le fais déjà là, mais te dire, dès que tu commences un peu à avoir peur des conséquences ou de mal faire, se dire, bah, fuck, est-ce que eux ils ont peur de mal faire? Non, bah allez, j'y vais quoi. Tu peux toujours se dire ça, je pense.
Ouais.
Moi je le fais de plus en plus là, mais je comprends, mais puis tu te rends compte qu'il n'y a rien qui est parfait là, mais tu fais de ton mieux. Vas-y.
Oui, mais t'as ouvert la porte à quelque chose de tellement puissant, puis tellement intense, mais c'est ça. La peur qu'on a de s'affirmer, des fois, c'est ça, nous appartient même pas. Ça vient du passé, mais on porte ce bagage-là en nous aussi. Puis, si je pourrais un peu faire la paix avec ce que les hommes portent en eux aussi, ben il y a des hommes qui s'éveillent, puis il y a des hommes qui voient comment... Justement, comment le masculin a perpétué la violence, a été dans l'abus de pouvoir, puis c'est dur pour tout le monde. J'ai l'impression qu'on est dans un processus de guérison qui est tellement nécessaire. Puis c'est ça, il faut aller au-delà, comme tu dis, il faut aller au-delà de la peur, puis c'est pour ça, tu sais, que j'essaie de reprendre un peu, parce que je me suis éloignée un peu du milieu artistique. Comme après mes enfants, j'étais moins proactive parce que j'avais vraiment un besoin de recul. Parce que j'avais l'impression que je travaillais beaucoup puis je recevais pas grand-chose. J'écrivais des pièces, je voulais être là, mais j'avais l'impression qu'on me laissait pas l'espace. Puis, fait que c'est ça, j'ai dû prendre un recul pour peut-être nourrir une force, nourrir un besoin. Puis là, maintenant, c'est OK, ben ce que moi, je vis comme expérience. Puis le recueil Catherine, c'est ça. C'est paroles de femmes, sensibilité de OK, ben voici comment j'agis ou comment je me sens ou voici mon intérieur. Puis ça, comme, je trouve ça intense, tu sais, il y a des gens qui m'en ont parlé, puis c'est comme, OK, ben merci d'avoir écrit ça.
tu as pris ton espace.
Exactement.
Il faut le prendre. On ne va pas nous le donner.
Non. Puis c'est de construire aussi, pas une carapace, mais de se dire, je vais dire des choses, puis ça va déranger. Puis ça va faire du backlash, puis il y a des gens qui vont arrêter de me parler. Puis il y a peut-être des gens avec qui je ne travaillerai plus jamais. Parce que j'ai dit quelque chose qui a dérangé. Ça, c'est dur aussi. Ouais. Parce que on est des fois muselé parce que c'est tellement un petit milieu. On a cette impression-là, oh, ben si je dis quelque chose qui vient de ma vérité, qui vient d'une place, tu sais, d'amour à quelque part, parce que c'est... faut que ça soit dit, tu sais, comme c'est pas par méchanceté, c'est pas par jalousie, c'est pas par haine, c'est juste faut que ça soit dit. Mais c'est ça. Ouais. Mais
est-ce que tu assumes maintenant que oui, en effet, en ayant ce que tu as dit des choses... Ben, je pense que oui, là, tu assumes, mais avec ton livre et même ce que tu dis, bah oui, il y a des gens qui vont plus vouloir travailler avec toi. Et alors?
Voilà.
Est-ce que tu arrives à te le dire?
Ouais. Ben, au début, ça a vraiment fait un effet de oh, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Mais parce que j'avais pris un recul sur le milieu, on dirait que c'est comme j'avais un peu un je m'en foutisse du sens que.
C'est chouette.
Ben, le recul m'a permis ça. Le recul m'a permis de faire c'est-tu quoi la vie, elle continue?
Ouais, oui.
Puis à un moment donné, si. On me donne la place pour avoir une parole, c'est parce qu'il faut que je la prenne, cette place-là, puis faut que je parle. J'ai pas le choix, là, j'ai plus le choix, là, ça bouille en moi, je peux plus être chez nous à ruminer, puis être comme, mon Dieu, il faut... puis...
On a besoin de...
Exact, c'est ça, il faut. Mais je m'aperçois que je brasse beaucoup, souvent, dans mes textes d'opinion, tu sais, j'ai partagé 2 textes d'opinion par rapport au milieu culturel, justement, puis par rapport, tu sais, à la série Les Newbies. Fait que je sens que ça brassait des affaires, puis des fois, j'ai l'impression que je suis incompris. Pis ça me fait mal. Parce que ça vient tellement pas d'une place qui est mauvaise, ça vient vraiment dans « je veux ouvrir une discussion parce qu'il faut qu'on en parle ». Mais c'est ça.
Bienvenue dans le monde du féminisme.
Voilà.
Ben oui, non mais t'as raison. Puis je suis contente que t'en parles aussi. Puis oui, et ben s'affirmer, c'est ça aussi. S'affirmer, c'est s'attendre à avoir des gens qui comprennent pas, qui sont pas au même stade. Puis je pense que c'est correct. Puis je comprends, on n'aime pas ça, on veut. Moi non plus, je veux pas j'aimerais pas qu'on me dise « Ah, je suis pas d'accord avec toi, c'est horrible ce que tu dis, patati patata ». Je pense que c'est la même chose que tu penses, là. On n'a pas envie d'être en conflit, mais malheureusement, d'affirmer des réalités que peu de gens osent affirmer parce qu'elles ont peur ou ils ont peur, il faut s'attendre à ça.
Oui.
Mais il faut aussi... c'est peut-être une... Peut-être que, puis je pense que, je ne sais pas si tu as trouvé ton cercle aussi, mais la force du groupe aussi. La force peut-être certainement d'autres artistes dans ton cas, puis je pense aux communautés LGBTQ, queer, tout ce que tu veux. Ils ont aussi ces réflexions-là, parce que ça leur tombe dans la face, évidemment, dans toute leur vie. Donc il y a plein de groupes de soutien, je pense des fois qu'on ne voit pas, mais qu'il faut aller rencontrer. Ça existe, là, ces discussions ouvertes qu'on peut avoir. C'est juste peut-être que c'est pas flagrant, mais faut trouver son équipe, on va dire, pour se ressourcer. Puis ça veut pas dire qu'il faut rester dans cette équipe-là tout le temps, parce qu'on finit par être d'accord sur que c'est pas bon. Mais au moins se consoler, là, on va dire, et puis se dire, OK, c'est correct, là. Je vais sortir dehors, et puis on va se prendre la tête avec des gens, mais c'est pas grave.
Mais c'est ça, je pense que ça vient avec le rôle, je pense que ça vient avec, justement, une fois qu'on s'éveille à comme la condition de la femme, ou la condition de l'artiste dans mon cas, on peut plus se fermer les yeux, puis on peut plus rester silencieux par rapport à ce qu'on voit, puis c'est ça, ça vient avec la job, quand on décide d'être une figure publique, entre guillemets, quand on décide de prendre sa place, de prendre son pouvoir, ben c'est ça, ça brasse, ça dérange. Je vais revenir à ce qu'on disait par rapport à la maternité puis au fait d'aller à l'hôpital tout ça. À un moment donné, j'ai décidé d'arrêter mes rendez-vous. J'étais comme non, la prochaine fois que je vais à un rendez-vous, ça sera juste mais que j'accouche ou peut-être juste avant. Puis c'est fascinant comment il y a tellement de gens qui m'ont dit ah oui comme tu sais je chantais beaucoup comme le support des femmes.
Ouais.
Mais je chantais qu'il y avait vraiment des gens qui étaient comme « Ah, qu'est-ce que tu fais? » Comme il y a tellement de complications qui peuvent arriver. Ton bébé peut... Tu sais, ton bébé peut mourir. Tu peux t'intoxiquer. Il y a ci, il y a ça. Comme je chantais qu'il y avait comme deux pôles. Mm-hmm. Puis ma médecin de famille était tellement sur les nerfs qu'elle m'a appelée. Elle m'a appelée et elle m'a dit « Faut que tu vas à ton rendez-vous. Faut que tu vas à ton échographie parce que là... » Puis j'étais comme...
Tu vas bien, toi?
Puis, ouais, puis j'étais comme, mais ça va bien, je sais que ça va bien. Je sais pas comment l'expliquer autrement. On a une intuition qu'on n'écoute pas parce qu'on nous a appris à pas l'écouter. Le pouvoir de la femme, il est là. Mais le pouvoir de tout le monde, en fait, c'est l'intuition, c'est comment je me sens dedans, comment je reconnecte avec mon corps, au lieu d'aller voir qu'est-ce que tout le monde me dit à l'extérieur. C'est comme, non, OK, je sais qu'il est bien, mon bébé. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Je sais qu'il est bien.
Tu en avais déjà fait un millier de tests avant. Là.
Ben, c'est ça. À un moment donné, je suis comme, OK, go with the flow, je sais pas. Puis, oh, mon Dieu. Oui, elle m'avait vraiment fait peur. Elle m'avait dit, ben, il pourrait mourir.
Oh my God.
Puis là, j'ai fait, bon, ben, OK, je vais aller. Elle m'avait convaincue parce que j'étais comme, ben, là, la culpabilité en bas. Là, tu dis, si elle a raison, puis là, vraiment, il meurt.
Ah, oui.
Puis là, c'est moi qui est égoïste, puis qui est vraiment têtu parce que je vais être hippie, là.
Tu veux juste. Hey, c'est incroyable, ça.
C'est vraiment fascinant.
Wow. Parce que t'avais pas de symptômes ou quoi que ce soit.
Ben non, il y avait pas. C'est juste que. Mais c'est ça. Mais tu sais, je les comprends en même temps. Je comprends d'où ils viennent. Je comprends qu'il y a comme un besoin de faire sûr que tout est bien. Mais c'est ça. C'est le contrôle.
Ouais, la peur.
Encore la peur.
Tu n'as plus confiance en toi, après.
Ben c'est ça. On nous apprend à avoir peur, puis ça nous déconnecte de notre intuition, ça nous déconnecte de... puis parce qu'on n'est pas connecté avec notre intuition, ben justement, je vais revenir à ce qu'on disait au début aussi, on n'est plus connecté avec « Oh, je me sens pas en sécurité avec cet homme-là ou avec cette personne-là. Okay. » Parce qu'on n'est plus capable de reconnaître les signes, parce qu'on nous a appris à pas accepter ces signes-là.
À les refouler,
exactement. Oui, refoule, puis souris au monsieur, puis il va te donner 20$. C'est ça, c'était ça.
Et puis, encore une fois, tu sais, suivre son intuition, c'est quelque chose qui n'est pas scientifiquement établi avec des rapports, des dates. Donc ça, c'est, encore une fois, ça va, non. C'est les, tu sais, c'est pas pris au sérieux, alors
non.
Que... Si, quoi. Ben... C'est l'instinct de survie, enfin, je veux dire...
Oui,
c'est intéressant. Puis c'est encore des valeurs qu'on attribue, tu vois, tout ce qui est trop l'émotion, l'intuition, on attribue ça aux femmes, donc dévaloriser.
Exact.
Si l'instinct était quelque chose de scientifique avec des chiffres calculés, bah peut-être qu'on dirait, ah oui, on les écouterait.
Je pense qu'une façon de reprendre son pouvoir, c'est vraiment, c'est un gros travail introspectif.
Faut avoir le temps aussi de le faire.
Faut avoir le temps de le faire, puis c'est beaucoup éliminer ben, la bullshit. Ce qui sert plus, ce qui est superficiel, ce qui a été donné, puis c'est difficile des fois de faire la différence entre est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que c'est la société, est-ce que c'est mes parents qui m'ont donné ça, je ne sais pas d'où ça vient. Puis c'est dur de vraiment de saisir à l'intérieur de soi-même qu'est-ce qu'est la vraie réponse pour soi, mais ça se fait.
Ouais. Tu l'as fait.
Oui.
C'est un exemple.
Voilà.
Ouais. Mais ça revient au ralentir aussi. Prendre le temps. On en parlait pas mal dans nos premiers épisodes aussi. D'ailleurs, le podcast a été créé pour ça, pour prendre le temps aussi. On trouvait qu'entre nous, on n'arrivait pas à aller en profondeur dans les sujets. Puis pas forcément d'être tout le temps, tu sais, genre super organisé, d'avoir des sources et tout. Non, juste... Jason, prenons le temps.
Oui, c'est ça. C'est sortir un peu de cette mentalité-là de survie aussi. Puis de faire, OK, j'ai pas besoin de faire cette job-là si c'est pas justement en corrélation avec ce que je ressens, avec mes valeurs, peu importe. Mais je trouve que, comme tu dis, le mouvement du slow, de la simplicité, nous permet une liberté. On retrouve cette liberté-là. On retrouve une connexion avec la nature qui est tellement liée avec l'énergie du féminin.
Ouais.
Tu sais, la terre, c'est ça que c'est. C'est juste...
Création.
La création, exactement.
Ah ben, question de Geneviève Latour qui m'avait dit « Ah, tu lui demanderas, est-ce qu'elle a hâte que ses enfants lisent Quatre pattes Catherine?
» Ben, je pense
comment tu leur expliqueras?
Je sais pas.
Ils sont peut-être trop petits, là.
Ben, c'est sûr qu'ils sont trop petits. Puis j'ai l'impression, comme beaucoup de choses, des fois, il y a la compréhension. Comme, mettons qu'ils... je sais pas. Attends, à 12 ans, ils vont le lire. Ils vont pas comprendre nécessairement qu'est-ce que je dis.
Oui.
Mais je pense que c'est... Ouais, c'est un univers intéressant dans le sens que ça... ça ouvre en espèce de perspective qu'est-ce que... Tu sais, l'amour, le sexe, comment les deux, des fois, se mélangent, l'attachement. Fait que ça peut être un outil d'apprentissage, je pense, mais qui commence à, comme,
ouais,
peut-être explorer, puis, tu sais, rencontrer l'autre. C'est des moments très fébriles.
En posant des questions.
Mm-hmm. Fait que, ouais, je pense, ouais, ils vont peut-être être gênés de lire ça, par exemple, mais je sais pas.
Là, ça peut être un sujet de discussion, c'est ça, avec
ah,
les
oui, tellement. Moi, j'aime voir mes enfants grandir, puis j'ai hâte qu'ils grandissent, parce que j'ai hâte d'avoir des débats, comme, justement, comme, OK, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis là, on passe à des discussions. Moi, c'est ça qui m'allume. Je suis tellement... Ouais.
Ah ben, on les invitera dans 10 ans.
Oui, c'est ça. Parlez-nous de votre mère. Et de son impact sur l'Acadie. Ben, j'espère que mon ouverture va permettre de faire des résonances ou justement va permettre des discussions, des débats constructifs. Puis j'ai juste beaucoup d'espoir dans l'humanité. Je pense qu'on est sur une bonne trajectoire. Puis autant qu'il y a beaucoup de noirceur qui est mis en lumière, mais je pense que c'est nécessaire justement pour qu'on se dise « bon, ben, on ne veut plus fonctionner comme ça ». Puis on s'en va vers un avenir, je pense, qui est en harmonie.
Oui.
Vraiment, je le sens, puis c'est ça, j'ai beaucoup d'espoir dans la vie.
Cool.
Oui.
Bah, c'est super beau. Moi aussi, j'ai de l'espoir. Bah, merci beaucoup, Joannie. Puis on se reparlera peut-être pour d'autres occasions. En tout cas, bonne journée.
Merci.
Merci beaucoup à la radio Beau FM à Dieppe qui nous prête gracieusement leur studio. Est-ce que vous avez aimé ce que vous avez entendu? On vous invite à nous écrire au podcast onptlr@commercialgmail.com afin de suggérer d'autres sujets de discussion ou encore des invités. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Nos comptes sont donc @commercialonptlr. Si vous souhaitez écouter nos premiers épisodes sur la colère, les différents mouvements féministes, le sommet des femmes en Acadie, les mythes sur le féminisme et le burn-out militant, c'est simple. Notre podcast ONPTLR est sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et SoundCloud. À bientôt!